Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 8 décembre 1987.
Excusez-moi. Depuis 4 heures du matin, on est sur la route. Il y a un brouillard énorme. Il y avait une sœur qui avait une visibilité encore plus faible que la mienne. Alors, j'avais envie de lui dire, écoutez, j'ai envie de prendre le... C'est vrai, il n'y a rien de plus fatigant que d'être dans une grosse voiture. Que toutes les autres voitures vous dépassent. C'est un exercice de patience. J'ai eu le temps de contempler pendant ça, là. Contempler l'Immaculée Conception et de penser à la substance. Parce qu'on ne contemple pas la substance, on pense à la substance. Et on contemple l'Immaculée Conception. C'est vrai, l'Immaculée Conception, c'est la pureté même de la substance, hein, vous comprenez bien. Ça doit aller jusque-là. C'est ça la chose étonnante. Tout est radicalement purifié. C'est pour ça que même la métaphysique de la substance doit nous permettre d'aller plus loin dans notre contemplation. De l'Immaculée Conception. Le père de haut, mon oncle, m'avait toujours dit, quand j'avais 20 ans, même 19, il faut faire de la métaphysique pour pouvoir parler du mystère de Marie. Ça m'est resté, vous voyez. Et c'est très vrai. Il faut faire la métaphysique pour pouvoir parler du mystère de Marie. Pouvoir parler au plan théologique, au sens très fort. Et on pourrait dire, Aristote dit, on fait la métaphysique pour parler de l'esprit et de Dieu. Et le croyant pourrait dire, on fait la métaphysique pour pouvoir scruter jusqu'au bout le mystère de l'Immaculée Conception et le mystère de la maternité divine de Marie. Puisque l'Immaculée Conception, c'est ce regard de Dieu, du Père, sur Marie, dans les profondeurs de son être. C'est son être qui est immaculé, puisque c'est sa conception. Et sa conception, c'est son être, dans ce qu'il a de plus radical, de plus profond. Son âme, et son âme dans la vision même du Créateur, c'est-à-dire son être, il est immaculé, c'est-à-dire il ne vient que de Dieu. Dieu seul l'a touché, c'est ça être immaculé, c'est d'être touché que par Dieu, d'être touché par rien d'autre, être atteint directement par Dieu. Or, la substance, il n'y a que Dieu qui la touche. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous de la découvrir. Dans une vision de sagesse, la substance, il n'y a que Dieu qui l'atteint. Il n'y a que Dieu qui agit sur la substance. Vous voyez, transsubstantiation. Pourquoi l'Église maintient-elle ce mot? Au dernier concile de cher père dominicain, qu'on connaît bien, avait circulé parmi tous les pères du concile qu'on pourrait transformer ce langage transsubstantiation par trans-signification, trans-finalité. Et il y avait tout un topo, sans être un père du concile, j'ai eu quand même le papier, il y a eu tout un topo là-dessus, en montrant que transsubstantiation s'était rattaché toute la théologie à la vieille philosophie aristotélicienne qui n'avait plus cours sur le marché. Il fallait donc repenser tout dans une lumière phénoménologique et donc changer transsubstantiation en transsignification et transfinalité. Et vous savez très bien, c'est à cause de ça que le pape, pendant le concile, a écrit une encyclique sur l'Eucharistie. Et je me souviens être passé à Rome à ce moment-là, juste au moment où l'encyclique allait paraître. Et il y avait beaucoup d'agitation. Parce que certains disaient, le pape n'a pas le droit d'écrire une encyclique pendant le concile. Il n'a qu'à se taire pendant le concile. Il laisse passer les autres. Vous voyez la sainte démocratie. Et le pape, mu par l'Esprit Saint, a écrit une encyclique pendant le concile. Pour bien montrer que son autorité de pape n'était en rien diminuée pendant le concile, puisque le concile n'a de valeur que si tous les documents sont signés par le pape. Et dans cette encyclique, il faut le relire de temps en temps, le pape montre très bien qu'il faut maintenir le terme transsubstantiation. Parce que transsignification et transfinalité, s'il n'y a pas transsubstantiation, n'exprime pas l'action directe de la toute-puissance de Dieu sur la substance du pain et sur la substance du corps du Christ. L'art chrétien, l'art, pas l'art chrétien, mais l'art tout court, peut faire des transsignifications. Mais la transsignification, c'est facile à comprendre. Vous avez de l'argile, vous faites le potier, et vous faites un vase. Vous avez une transsignification. Avant, c'était de l'argile. Maintenant, ça devient un vase. Une statue de la Vierge Marie. Art chrétien. Le granit breton devient statue de la Vierge Marie. Transsignification. L'artiste peut faire ça. Il fait des transsignifications, l'artiste. C'est le propre de l'art. Et il peut même aller jusqu'à des transfinalités, pas humaines, mais matérielles, puisque l'œuvre est une fin et fait, mais c'est une fin aussi. La transfinalité, c'est facile à comprendre, dans l'ordre matériel, vous comprenez bien. La finalité du petit lièvre et la finalité du civet transformé par le cuisinier, c'est pas la même finalité, transfinalité. La finalité du petit lièvre, c'est de produire d'autres petits lièvres. Tandis que quand il est dans la marmite, c'est très difficile pour lui de produire d'autres petits lièvres. Il est fait pour être mangé. Transfinalité. Voyez bien, le transfert de la finalité, le transfert de la signification. Et ce bon théologien prenait l'exemple du thé. C'est la même chose. Le thé, quand il est sur le petit arbre. Le thé, quand il est dans la boîte de thé. Le thé, quand il est dans la tasse et que vous êtes en train de le boire. Vous voyez bien, il a passé par des significations diverses et des finalités diverses. J'aime mieux le civet de lapin. De lièvre, ça vaut mieux, on voit mieux la signification. Vous pourriez prendre ça pour le sanglier aussi. Tandis que le cuisinier, si artiste qu'il soit, ne fait jamais transsubstantiation. L'art humain agit sur la forme. Agissant sur la forme, il peut modifier la finalité. Mais s'il ne fait pas une transsubstantiation. Je donne un autre exemple pour que vous compreniez, mais c'est très important. Je donne un autre exemple. Un archéologue découvre des restes de terre cuite. On les met dans un musée. Transfinalité. Transsignification. Quand l'artiste l'avait lavé pour que ce soit un vase, pour conduire le grain ou l'huile, vous le retrouvez 4000 ans ans après, il a augmenté de valeur. Ce n'est plus pour l'utilité, c'est pour qu'on le regarde. On en voit la beauté de la forme. Ben, nous sommes des gens astucieux au XXe siècle. On admire des petits carrés de terre que nos ancêtres n'ont jamais admirés. Tout le progrès, c'est extraordinaire. Transfinalité. Transsignification. Voyez, j'ai oublié, mais je peux le dire maintenant. Ce serait peut-être une manière de comprendre ce que c'est que la substance. Il faut toujours se servir des erreurs pour la vérité. Voyez, pour arriver à comprendre ce que c'est que la substance, regardez la transsignification. Puis la transfinalité. Et comprenez qu'à partir de là, je peux induire transsubstance. Mais la signification est de l'ordre de l'acuité. La finalité est de l'ordre de l'intentionnalité. Comme du reste la signification, tous les deux sont de l'ordre de l'intentionnalité. J'ai une intention de vie. La finalité, je ne dis pas la fin. La fin est substantielle. Mais la finalité, elle est intentionnelle. C'est l'amour que je porte dans mon cœur. J'ai une finalité. Il faut dépasser l'intentionnalité pour redécouvrir ce qui est. Alors, la question se pose, puis-je vraiment induire, à partir de l'intentionnalité, l'être ? Vous avez raison, on ne peut pas. Je ne peux pas, à partir de l'intentionnalité, redécouvrir ce que c'est. Donc, voyez, il n'y a pas d'induction. Il faut avoir découvert ce qui est pour montrer par le jugement d'existence. Il faut avoir découvert ce qui est par le jugement d'existence et découvert le noyau central de ce qui est, c'est-à-dire le principe. La cause de ce qui est pour découvrir la substance. Je découvre la substance à partir du jugement d'existence, mais à partir de la signification, à partir de la finalité, je ne peux pas découvrir la substance. C'était le rêve de Descartes. Cogito ergo sum. Et donc quand vous ne cogitez pas, non sum. Cogito ergo sum. Pendant que vous dormez, vous ne cogitez pas. Donc vous n'existez plus. Descartes aurait voulu qu'à partir de l'intentionnalité de l'idée, donc à partir de l'idée, on retrouve le réel, ce qui est. Ce qui est impossible. La grosse critique de Kant, c'est ça, et il a raison. Pousser l'intentionnalité le plus possible, vous ne rejoindrez jamais le réel. Or, transsignification, transfinalité, demeure dans le domaine de l'intentionnalité. Et donc, ne demeure pas dans le demeure de l'être. Et donc, vouloir transformer l'expression transsubstantialité, transsubstance, pas transsignification et transfinalité n'aboutit pas. Donc vous voyez, c'est quand même important de faire un peu de métaphysique. Ça nous empêche de dérailler complètement. Parce que j'ai présenté le texte à des théologiens non métaphysiciens, et il y en a beaucoup hélas aujourd'hui, devrait faire ça. Et le Saint-Père a très bien senti qu'il y avait un danger. Alors le Saint-Père a dit, bon, plutôt que d'éviter de refuser une majorité, allons-y, fonçons. Il a rappelé qu'on n'avait pas le droit d'abandonner le point de vue de la transsubstantiation. Parce que si on abandonne cela, on ne voit plus l'intervention de la toute-puissance de Dieu. Puisque Dieu seul, par sa toute-puissance de créateur, atteint l'être. Or, dans le mystère de l'Immaculée Conception, c'est le mystère du créateur qui atteint l'âme de Marie, sa substance. Sainte Trinité, les trois personnes. exhaustive. Moi, je regarde tout du point de vue de l'être d'une manière analogique. Le regard de Dieu est intuitif et exhaustif, puisqu'il n'y a pas d'intentionnalité en Dieu. Il y a un regard d'une réalité, d'un réalisme unique. Et le regard du métaphysicien touche la même réalité, la substance. C'est ça que c'est impressionnant d'atteindre la substance. Parce qu'on touche quelque chose qui est radical dans ce qui est. Mais je l'atteins analogiquement. C'est-à-dire que je l'atteins par un mode abstrait. Ma sensibilité ne touche pas la substance. C'est bien ennuyeux. Mon imagination ne touche pas à la substance. Seule l'intelligence atteint la substance. Et atteignant la substance, j'atteins ce qu'il y a de plus radical dans ce qui est. Et donc je rejoins à ma manière de pauvre, parce que l'analogie c'est une connaissance de pauvre. Il faut être pauvre pour accepter l'analogie. C'est pour ça que Hegel ne l'accepte pas et qu'il aime mieux la dialectique. Parce que la dialectique, c'est la philosophie de l'économie de consommation. C'est une connaissance riche. On accumule, on accumule, on accumule. L'analogie, on appauvrit, on appauvrit, on appauvrit. C'est très curieux. C'est extraordinaire de voir la manière toute différente synthèse, donc de s'enrichir, un avoir. C'est ça que la dialectique n'atteint pas l'être, n'atteint pas la vie. Vous voyez, mono, qui n'est pas un père de l'Église. Mono dit, la vie n'est pas dialectique. L'être n'est pas dialectique. Qu'est-ce qui est dialectique ? Uniquement le devenir peut être saisi par la dialectique, mais pas l'être, pas la vie. Je demeure dans le devenir, et uniquement dans le devenir. Dans un devenir imaginatif. Mais il y a un devenir imaginatif. C'est pas le devenir de l'art. L'art n'est pas dialectique. Le véritable art n'est pas dialectique. Mais il peut y avoir une rhétorique qui est un art mineur. Alors, la rhétorique peut être dialectique. Et elle l'est très vite. Quand vous écoutez un bon avocat ou un très grand rhéteur, c'est toujours intéressant, vous voyez qu'il prend les procès du dialectique. Souvent, il ne sait pas. Alors, vous le coincez au tournant. Parce qu'on peut toujours coincer quelqu'un qui fait de la dialectique sans trop bien savoir, et puis montrer une pensée dialectique, donc il n'atteint pas le réel, et qui reste dans l'imaginaire. L'être, la vie, ne peut être atteinte proprement que dans un regard de pauvre, c'est-à-dire un regard analogique. Le regard du pauvre, il respecte, c'est ça le pauvre. C'est la définition du beau. Il respecte l'autre. Et toute la pauvreté, c'est pour respecter l'autre. Respecter l'autre en l'aimant. Respecter l'autre dans la justice. C'est le respect à l'égard de l'autre. C'est ça le propre de la pensée analogique. C'est de respecter l'être, ce qui est. Je respecte le petit caillou parce que je ne suis pas le petit caillou. Donc je le respecte. Et je respecte surtout mon voisin, parce qu'il n'est pas moi. Tandis que dans la dialectique, vous voudriez beaucoup l'annexer. C'est-à-dire l'utiliser. La pensée dialectique utilise tout, même l'être. On utilise l'être par le non-être, pour en faire le devenir, imaginativement. C'est terrible, vous avez la pensée dialectique. C'est terrible. Alors il faut l'attaquer dans tous les sens, dès qu'on a compris un tout petit peu, et toute la théologie du moins. Beaucoup de théologie. signification, comme telle, n'atteint jamais la substance. La finalité, comme telle, n'atteint jamais la substance. Il faut le jugement d'existence, saisir l'autre. Alors, si le jugement d'existence, oh très bien, la signification est ordonnée à ce qui est, et la finalité est ordonnée au bien. Et le bien existe substantiellement. Ça, c'est une petite... Oui, à la manière de projeter une autre lumière sur ce problème de la substance pour que vous compreniez que ce que nous faisons non seulement aiguise notre intelligence, mais nous permet de respecter, je ne dis pas de comprendre, hein, surtout pas, de respecter les deux grands mystères, Eucharistie, Marie, les deux témoins, selon le langage de l'Apocalypse, les deux témoins, chapitre 11 de l'Apocalypse, au milieu des grandes tempêtes, Dieu donne deux témoins, l'Eucharistie Marie. S'il y a l'Eucharistie et Marie, il n'y a pas de danger de tomber dans le fossé. Même s'il y a du brouillard. Et même en allant assez vite. Parce qu'il y a deux manières de ne pas tomber dans le fossé. C'est d'aller très très lentement. Ici, la patience des saints. Ou bien au contraire, en prenant les deux témoins. Alors, je continue. En regardant toujours ce que saint Thomas nous dit sur la substance. Alors, nous avions vu dans le premier saint Thomas, le saint Thomas des sentences. Et on voit bien que dans le saint Thomas des sentences, saint Thomas se sert énormément des prédicaments. C'est-à-dire substance première, substance seconde. Et il se sert très peu de la substance principe et cause de ce qui est. Mais il ne faut pas dire qu'il ne s'en sert pas. Mais j'allais presque dire, il s'en sert à égalité, et même plus, de la substance première, de la substance seconde. Voyons, dans le second livre des sentences, un tout petit passage de saint Thomas encore intéressant. Saint Thomas se pose la question de savoir si les anges sont composés de matière et de forme. Alors vous savez très bien qu'une des grandes préoccupations de saint Thomas, ce sont les anges, docteur angélique. Saint Thomas était très familiarisé avec les anges, comme tous les grands théologiens du reste, et comme tous les grands chrétiens sont familiarisés avec les anges. C'est quand même agréable, quand on est fatigué des hommes, d'aller prendre son repas avec les anges. Des repas angéliques, c'est plus agréable. Quelque chose d'intéressant. Il faut après retomber sur la terre, c'est sûr. Parce que rester avec les anges uniquement, c'est très très bien, mais souvent, on risque un tout petit peu de perdre un peu de réalisme. Donc, dans le second livre des sentences, saint Thomas se pose la question de savoir si les anges sont composés de matière et de forme. Mais c'est très intéressant de voir ça. Hein. Vous allez voir après. En présence d'une première objection, selon laquelle la raison de substance, en tant qu'elle est un prédicament, et qu'elle est composée de matière et de forme, ceci toujours en référence à Boès. Boès, le latin. Il ne faut pas l'oublier. Le latin qui fait passer la philosophie d'Aristote. chose. La substance, saint Thomas répond qu'il appartient à la raison de substance de subsister comme un être par soi. C'est très avicénien. Ça, c'est tout à fait saint Thomas, disciple d'Avicenne. C'est quand même beau, parce qu'on voit très bien qu'Avicenne a dépassé les prédicaments, c'est sûr. Avicenne est une pensée métaphysique, quelquefois un peu trop néo-platonicienne, mais c'est une pensée métaphysique. Et alors, saint Thomas dit ceci, donc, des rationnés substanciés, est quod subsistit, quasi percé ens. C'est une petite phrase très belle. Vous voyez le quasi. Il dit que la substance, c'est quasi percé ens. Ça, il faut le retenir. Donc, la ratio substantiée. Alors, comprenez bien, la ratio substantiée, c'est-à-dire ce qu'est la substance prise en elle-même. Eh bien, dit, la substance prise en elle-même, elle est quasi. Le quasi, hein. Il faut bien comprendre ce que c'est que le quasi. Comme si, comme si. C'est pas l'affirmation absolue. Il y a toute petite, un petit bémol, si vous voulez. Hein. Elle est ens, percée. Pourquoi ? Parce que de la raison de la substance, c'est qu'elle subsiste. Donc, c'est par la subsistance qu'on affirme qu'elle est ens percée. Un étudiant, il était chrétien. achevé, je lui ai demandé de faire sa thèse sur Avicenne, arabe. Pour comprendre Avicenne dans ce qu'il avait de plus profond. Et non pas uniquement l'Avicenne latin. Vous voyez, le latin est toujours penché vers le point de vue juridique. Et le point de vue logique. C'est très curieux. Mais Boès a traduit les prédicaments et pas du tout la métaphysique. Et au fond, c'est ce point de vue logique que les latins ont traduit, surtout d'Avicenne. Le point de vue plus néoplatonicien, plus descriptif. Et l'aspect plus métaphysique, ça leur a un peu échappé. Alors, c'est l'autorité d'Avicenne que saint Thomas invoque ici. Tout ce qui est dans le genre de sacuité n'est pas en essai. Ici, traitant de la ratio substantiée, donc de la raison de substance, saint Thomas met en lumière un sens beaucoup plus métaphysique de la substance, bien qu'il soit toujours fait allusion au prédicament substance, plus métaphysique grâce à la subsistance, mais pas encore pleinement métaphysique. Regardons ça et essayons de comprendre, parce que ça, son intérêt, il y a la substance première prédicament qui est sujet. La découverte de la substance au niveau métaphysique, c'est découvrir la substance comme cause de ce qui est. Cause selon la forme de ce qui est. Ça, je crois que c'est la substance principe. Et je peux regarder, une fois que je découvre la substance principe, la manière d'exister de la substance, c'est sa subsistance. Donc vous voyez, ces trois regards. Alors c'est intéressant de voir que saint Thomas, des sentences, parle de la ratio substantiée, de la raison de substance. Normalement, si je parle de la raison de substance, je devrais regarder la substance au niveau métaphysique comme cause selon la forme de ce qui est. Mais comme saint Thomas n'a pas encore saisi pleinement la substance au niveau métaphysique, il regarde la manière d'exister de la substance. Et donc, il regarde la subsistance. Et par la subsistance, il rejoint l'ens per se. Il dépasse l'aspect logique pour découvrir la manière d'exister de la subsistance, ce qui lui a été transmis par Albert le Grand, et par là de découvrir l'ens per se, et de donc de dire que la raison de substance n'implique pas la composition de la matière et de la forme. Donc c'est déjà très très grand de voir ça. Alors ici, un petit nota bene. Parce que c'est important de bien saisir ça, un petit nota bene. C'est pour être attentif aux thomistes d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit nota bene. Gilson. Notre cher Étienne Gilson. Parce que de temps en temps, vous savez bien, je l'aime beaucoup, mais parce que je l'aime beaucoup, je peux montrer ce qu'il n'a pas compris. Gilson, Étienne Gilson, dit ouvertement que la distinction matière et forme saint Thomas parle de la ratio substantiée. Il nous dit qu'on est au-delà de la distinction matière et forme. Oui, donc Gilles n'a pas saisi que quand Aristote parle de la substance, il est au-delà de la distinction matière et forme. Parce que la substance se distingue de l'accident. Elle est au niveau de ce qui est, et non pas au niveau du devenir. Et au niveau de ce qui est, la distinction matière et forme est dépassée. On le reverra, ça, mais je vous le dis tout de suite, parce que c'est intéressant de voir que tout de suite, saint Thomas, dans les sentences, parlant de la ratio substantiée, de la raison de substance, montre que la raison de substance n'implique pas la distinction matière et forme. Autrement dit, il peut y avoir une substance qui n'implique pas la matière. Parce que la substance implique la subsistance, comme dit saint Thomas. Et donc, elle est ens per se. Elle n'est pas un être composé. Elle est l'être qui, par lui-même, est. Donc ça, c'est très important à bien noter. Et alors, je dis ça, c'est parce que à partir de Gilson, tous les bons thomistes disent qu'Aristote n'a pas dépassé la distinction de matière et forme. Ils répètent Gilson. Et ils disent que même la saisie de la substance chez Aristote demeure composée. Or, pour Aristote, la substance composée, c'est belle substance, et non pas la substance. J'espère que vous voyez un peu. Petit à petit, vous entrerez dedans. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai, c'est difficile.